Il est 19h, bienvenue sur Europe 1.
Comment adopter des mesures communes en Europe face à un variant insaisissable ? Casse-tête en ce moment pour les 27 qui s'interrogent sur la mise en place de mesures restrictives aux frontières.
Le laboratoire Pfizer décide de réduire ses livraisons. Voilà qui ne devrait pas faciliter la campagne de vaccination.
Sachant que la prise de rendez-vous pour les plus de 75 ans ressemble déjà à un parcours du combattant, on sera dans les Hauts-de-France où 37% des rendez-vous sont carrément annulés.
Au sommaire également, quand Emmanuel Macron compare les Français à des procureurs ?
Prompt à juger la politique sanitaire du gouvernement, il dénonce la traque incessante de l'erreur.
Le président qui veut booster l'investissement de la France dans les technologies quantiques.
On vous expliquera de quoi il s'agit exactement. C'est notre avenir et notre souveraineté qui est en jeu.
À suivre aussi les révélations d'Europe 1 sur l'arrestation du Français le plus recherché par Interpol, Europol.
Par Europol, oui. Et puis un grand bol d'air avec Corinne Boulot et des navigateurs qui ne traînent pas en route à l'assaut du record du trophée Jules Verne.
Attention, prudence côté météo. Trois départements en vigilance orange dès demain matin, Anissa.
Il s'agit de trois départements du sud-ouest d'où va arriver la tempête Hortense demain. Nous aurons des pluies soutenues, des vents forts, le retour de la neige. C'est le programme de ce vendredi que je vous détaille à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont donc en ce moment chacun devant leur écran par visioconférence pour évoquer la pandémie qui n'épargne aucun pays d'Europe.
Et au programme de ces échanges, le fameux passeport vaccinal notamment, l'accès au vaccin pour un plus grand nombre, mais aussi la très sensible question des restrictions aux frontières de l'Union européenne. Isabelle Horry, vous êtes en direct sur place.
Oui, c'est un sujet qui est en train de monter, hein, celui des mesures à mettre en place entre les pays européens. Alors, vous vous souvenez comment en mars, les frontières s'étaient fermées de façon désordonnée, chacun agissant dans son coin. Eh bien, cette fois, il y a la volonté de tenter de mieux se coordonner. La France, par exemple, dit depuis la semaine dernière qu'elle envisage des contrôles sanitaires pour les Européens qui entreraient sur son territoire. Mais elle voulait d'abord en parler avec les autres pays, sachant que certains États membres comme l'Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique exigent déjà un test PCR négatif et parfois impose une quarantaine. La Belgique voudrait même aller plus loin. Son Premier ministre veut interdire les voyages non essentiels. En clair, interdire aux Belges d'aller en France ou en Suisse pour les vacances de février et interdire le territoire belge aux voisins. Même Angela Merkel n'exclut plus la fermeture des frontières allemandes en dernier recours, dit la chancelière. C'est donc le sujet sur la table ce soir. Pas simple pour les Européens d'avoir une approche commune. C'est une compétence nationale et la vitesse de propagation des nouveaux variants change la donne de 48 heures en 48 heures. Ce soir, l'agence européenne chargée des épidémies appelle en tout cas les 27 à prendre des mesures encore plus strictes dans les semaines à venir.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Alors en France, comme partout en Europe, la course à la vaccination est lancée avec plus ou moins de succès.
Et plus ou moins de rapidité hein, surtout. Et voilà qui ne devrait pas arranger les choses. On en parlait à 18h. Aujourd'hui, le laboratoire Pfizer-BioNTech a décidé de réduire ses livraisons.
Oui, au motif que l'agence européenne du médicament a recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher et d'administrer autant de produits que possible. On doit théoriquement, avec un flacon prévu pour 5 injections, en faire une 6e.
Et voilà qui effectivement pourrait compliquer la situation, sachant que dans plusieurs régions de France, les plus de 75 ans ont déjà énormément de mal à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, tout comme les personnes les plus fragiles. Pire encore, certains rendez-vous sont annulés, c'est le cas notamment chez vous dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
Effectivement, et concrètement, un tiers des rendez-vous pris dans les centres de vaccination des Hauts-de-France pour les 15 prochains jours doivent être annulés et reprogrammés ultérieurement. Ce qui signifie que des personnes de plus de 75 ans qui étaient parvenues, parfois non sans mal, à s'inscrire pour une séance de vaccination, reçoivent actuellement un coup de téléphone pour leur indiquer que celle-ci est reportée. C'est le cas de Jacqueline, retraitée de 80 ans, habitante de Marc-en-Barœul dans l'agglomération lilloise.
Mon rendez-vous était pour aujourd'hui, jeudi, 16h. Et à 10h30, 11h, ce matin, on m'a téléphoné pour me dire que la séance était annulée et de toute façon, je n'ai pas de rendez-vous. Je ne peux téléphoner que d'ici 15 jours, 3 semaines pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Pour moi, c'est urgent parce que j'ai du diabète et ensuite, j'ai des problèmes pulmonaires. Pour moi, c'était important d'être vacciné. Donc, j'en suis au point mort. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller.
Et dans certaines villes comme à Calais, par exemple, ce sont 40% des demandes qui, d'ici la fin du mois, ne pourront pas être satisfaites faute de stock de vaccins suffisants. D'ailleurs, dans la première ville du Pas-de-Calais, l'ouverture d'un deuxième centre de vaccination prévu aujourd'hui a été reportée au moins d'une semaine. Seule garantie apportée ce matin par l'ARS, les rendez-vous pour la deuxième injection de vaccin sont bien maintenus. Les réserves de doses nécessaires sont assurées.
Lionel Gougelot en direct de Lille, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Ces annulations et ces couacs sont souvent mal compris par les Français, à qui Emmanuel Macron a d'ailleurs fait des reproches aujourd'hui.
Oui, le président en visite à l'université de Saclay s'est adressé à ceux qui critiquent en permanence la gestion de la crise par le gouvernement.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation. C'est d'accepter sa part de risque et donc sa part d'erreur.
Emmanuel Macron, qui était donc à Saclay aujourd'hui, où il a fait des annonces à destination des étudiants à l'heure de cette crise sanitaire.
Oui, notamment la mise en place de 2 repas par jour pour tous dans les restaurants universitaires.
Ou encore la mise en place de soutien psychologique. Et le président a évoqué la possibilité d'une présence en cours 1 jour par semaine. Mais Virginie Riva nous expliquait tout à l'heure que ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Et si Emmanuel Macron s'est rendu à cette université de Saclay, c'est aussi pour annoncer un grand plan pour soutenir l'information quantique, cruciale pour notre souveraineté. Il va falloir nous expliquer.
L'informatique quantique même. Le président qui a dévoilé effectivement un plan à 1,8 milliard d'euros pour rester dans la course. Bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
Alors de quoi parle-t-on exactement? Ça paraît compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur quantique?
Alors c'est pas simple. Effectivement, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise les lois de la physique quantique. C'est un domaine de recherche qui s'intéresse à l'infiniment petit, l'échelle en dessous de l'atome. C'est un autre monde avec des lois physiques différentes d'une autre et ces lois peuvent être intégrés à un ordinateur pour effectuer simultanément des millions d'opérations de calcul très complexes. Pour l'instant, on en est encore à l'état de théorie, mais l'ordinateur quantique aura des applications dans de nombreux domaines. Analyse financière, intelligence artificielle, prévision météo, fission nucléaire ou encore dans la santé. Explication de Xavier Vasquez, directeur mondial des centres technologiques d'IBM Systems.
Un ordinateur quantique va pouvoir, par exemple, modéliser comment les molécules interagissent entre elles, comment elles sont structurées, comment elles sont réactives, comment on peut prédire sa réactivité. Ça veut dire que demain, eh bien, on va pouvoir synthétiser des molécules thérapeutiques et en fait, finalement, personnaliser de plus en plus la médecine.
Alors, c'est prometteur, mais ne vous emballez pas trop. Vous n'aurez pas tous un ordinateur quantique dans votre bureau dans 10 ans. C'est un super calculateur, une machine de laboratoire. Les prototypes ne ressemblent pas du tout à des ordinateurs tels qu'on les connaît. Ce sont des enchevêtrements de fils et de tubes suspendus au plafond. On dirait des chandeliers. D'ailleurs, c'est assez joli. Et petit détail, l'ordinateur quantique ne peut fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius.
Ah oui,
effectivement, on n'en aura pas dans nos bureaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On a tout compris, merci Clément Le Saffre.
Enfin, une bonne nouvelle, l'expansion de l'épizootie de grippe aviaire semble à ce jour contrôlée en Nouvelle-Aquitaine.
Et notamment dans son épicentre, dans les Landes, c'est ce qu'indique ce soir la préfète de région. Le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans, enrichi à la dernière minute par des mesures spécifiques à la lutte contre l'inceste.
Le nombre de demandes d'asile a chuté de 41% en France l'an dernier sous l'effet de la crise sanitaire.
Ce qui marque une rupture très nette après des années de hausse depuis la crise migratoire de 2015. Selon les statistiques de l'immigration qui ont été publiées aujourd'hui, la pandémie a eu des conséquences importantes à la fois sur les flux migratoires entrants et sortants.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal, 19h10, Europe 1 vous le révélait en début d'après-midi, François Di Pasquali, l'homme le plus recherché de France par Europol, a donc été arrêté hier soir en Espagne.
En cavale depuis plus de 4 ans, il avait été jugé en son absence à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une femme de 84 ans à Saint-Étienne en 2009. Il faisait partie, Gladys Laffitte, des 19 personnes most wanted, les plus recherchées, listées par Europol en 2020.
Oui, exactement. Et à ce titre, les enquêteurs de la BNRF, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, ont effectué un travail de fourmi pour le retrouver. Ils n'ont pas lâché l'entourage de François Di Pasquali, un franco-italien de 48 ans, des proches français notamment, dans la confidence de sa cavale, puisqu'il prenait beaucoup de précautions pour ne pas attirer l'attention visiblement. Mais petit à petit, les policiers apprennent que sa compagne est espagnole, que cette piste est donc peut-être intéressante à suivre. Une piste confirmée par un indice récolté lors d'une vaste opération de perquisition menée en France hier. Tout a été passé au peigne fin, carte postale, téléphone, ordinateur, bref, la confirmation arrive vite. Un immeuble où pourrait se trouver le fugitif est identifié dans la banlieue de Barcelone. Quelques heures plus tard, la police espagnole s'y rend et arrête donc François Di Pasquali en possession d'un faux passeport italien. Fin de cavale donc pour cet homme recherché depuis plus de 4 ans. Il devrait être remis à la France dans les 40 prochains jours.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le foot et Noël Le Graët, candidat pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération française. Il a 79 ans, sera donc en lice face à Frédéric Thiriez et Michel Moulin. Et puis la voile, les concurrents du Vendée Globe emmenés par Charlie Dalin sont toujours dans un mouchoir de poche après d'une semaine de l'arrivée. Mais ce soir, on va vous parler d'autres marins qui ne concourent pas sur ce Vendée Globe mais qui sont en ce moment à l'assaut d'un record, celui du Tour du Monde le plus rapide. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
C'est bien parti, hein, ils viennent de réaliser une descente de l'Atlantique Express.
Oui, Franck Camas, Charles Caudrier et leurs quatre équipiers se sont lancés à bord d'un multicoque de 32 mètres le 10 janvier de Brest, à l'assaut du record du Tour du Monde détenu par Francis Joyon depuis 3 ans. En 11 jours, ils ont déjà atteint le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud, du jamais vu. L'équipage du trimaran volant Gitana vient de rentrer avec un peu plus d'une journée d'avance dans l'océan Indien, laissant derrière eux les douceurs de l'Atlantique, comme vient de nous le décrire Charles Caudrier.
Passage de l'équateur, descente le long du Brésil, c'était des moments assez magiques. Hein. On a eu de la mer plate, pas trop de vent, et c'est vrai que c'était un plaisir énorme. Le bateau volait, et là, depuis qu'on est arrivé dans le sud, c'est changement d'ambiance. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué de faire avancer les bateaux. Mais c'est passionnant, parce que tous les jours, on apprend des choses.
Alors, pour rester dans les temps du record, ils vont devoir avaler les mers du Sud en 14 jours, dans les 40e rugissants et les 50e hurlants, là où les monocoques du Vendée Globe ont mis un mois. D'ailleurs, l'équipage du trimaran a une pensée pour les premiers du Vendée Globe, lancés dans un sprint final sans répit, comme vient encore de nous le confier Charles Caudrelier.
Et c'est un autre exercice. Hein. Quand on va dormir, là, toutes les deux heures, on se dit, quand tu es en solitaire, tu dors pas, tu vas pas, tu te reposes pas. C'est sûr que c'est une course extrêmement dure et on le voit vraiment dans cette édition avec ce finish de dingue. Et là, je pense qu'ils sont tous dans le stress complet parce qu'il y a 4 bateaux qui peuvent gagner, quoi.
Oui, même un peu plus, 4, 5, 6. Pour battre le record, en tout cas, l'équipage du trimaran Gitana devra franchir la ligne au large de Ouessant avant le fin février, le 20 février prochain.
Merci Corinne Boulou. J'en profite pour vous dire que le navigateur François Gabart sera notre invité demain à 18h20.
Oh, belle invité. On l'écoutera avec grand plaisir. Alors lui, il sera l'invité de la matinale d'Europe 1 dans un autre registre. Il navigue plutôt avec les notes de musique. C'est Jean-Louis Aubert qui, après une longue période d'absence, sort un nouveau single. Où me tourner ?
Jean-Louis Aubert qui évoquera donc demain matin avec Mathieu Béliard notamment son rapport au confinement, à la période que nous traversons.
Tu m'as laissé seul dans la tempête. Avec mes rêves de conquête.
Jean-Louis Aubert invité demain à 7h40 du tête-à-tête de Mathieu Béliard sur Europe 1.
On sera à l'écoute évidemment. Merci Isabelle. Et demain vous serez donc aux commandes. Du 18-20 avec votre invité à 18h20 précisément, qui sera le navigateur François Gabart. La météo. Oui, c'est un joli garçon, Anissa. Vous levez les yeux au ciel. Oui, c'est un joli garçon.
Très concentré sur,
vous aurez l'occasion de le rencontrer demain en studio, ma chère Anissa. Ne vous inquiétez pas. En attendant,
beaucoup. Vous
nous annoncez de la pluie presque partout et des vents forts.
La pluie concerne toutes les régions, sauf la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne. Là, les éclaircies vont illuminer votre vendredi. Partout ailleurs, c'est de la pluie. Des pluies parfois soutenues, surtout dans le sud-ouest, où les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange vent fort, parce que dans ces régions, on attend des rafales à 130 km/h sur les côtes, prudence. En montagne, la neige est de retour demain, des 1200 mètres. Et les températures, elles baissent un tout petit peu demain matin avec 1 degré à Aurillac, 3 à Lille et Nancy, 6 à Paris et 9 à Nice et Marseille.
Merci Anissa.
Europe 1, écoutez le monde changer.